Vous écoutez, on lit pour vous.
Près d'un étudiant du Québec sur deux risque de souffrir d'un épisode dépressif. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 30 avril 2025 dans Le Devoir. Près d'un étudiant au cégep ou à l'université au Québec sur deux était à risque de présenter un épisode dépressif majeur au moment d'une enquête effectuée à l'automne 2024. C'est ce que révèlent les résultats préliminaires de l'exercice réalisé auprès de 32 790 personnes. Du 4 au 22 novembre 2024, l'Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur a sondé des étudiants dans 77 établissements collégiaux et universitaires de la province. L'organisme en question est financé par Québec dans le cadre du Plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur 2021-2026. Le but de l'exercice était de dresser un portrait de la santé mentale des étudiants québécois et de déterminer les facteurs qui influent sur elle. Selon les résultats préliminaires, plus de 4 étudiants sur 10 étaient à risque de présenter un trouble d'anxiété généralisé au moment de l'enquête. Ce risque, tout comme celui d'être atteint d'un épisode dépressif majeur, est évalué en fonction de la fréquence des symptômes rapportés par les répondants. Étant donné qu'il s'agit de résultats préliminaires, davantage d'analyses devront être faites pour expliquer à quoi ces taux élevés d'anxiété et de dépression sont dus, soutient Benjamin Gallet, co-directeur de l'Observatoire et responsable scientifique de l'enquête. Un rapport complet sera d'ailleurs publié à l'automne 2025. Monsieur Gallet rappelle toutefois que durant la pandémie de COVID-19, la proportion d'étudiants atteints d'un trouble d'anxiété généralisée ou d'un épisode de dépression majeure a bondi. Or, ces taux ne sont pas forcément réduits de manière significative depuis la crise sanitaire. Il formule donc l'hypothèse qu'à l'heure actuelle, les jeunes adultes vivent un certain nombre d'épreuves. Du lot, il mentionne le fait que la hausse du coût de la vie a pu causer de l'anxiété chez les étudiants. Quand on est aux études, on ne peut pas travailler à temps plein. Presque toutes les heures de travail réalisées pour amasser de l'argent servent carrément à pouvoir vivre, affirme-t-il. Du positif. Selon les résultats préliminaires de l'enquête, certains facteurs précis qui influent sur la santé mentale des étudiants semblent toutefois ressortir. Par exemple, le fait de se sentir isolé serait lié aux symptômes anxieux et dépressifs, indique le responsable scientifique. À l'opposé, le fait d'avoir un sentiment d'appartenance à sa communauté semble associé à une meilleure santé mentale, dit-il. Près de 3 étudiants sur 10 au Québec ont d'ailleurs une santé mentale florissante, soit un niveau optimal de bien-être émotionnel et un bon fonctionnement psychologique et social, souligne Benjamin Gallet. Ce taux est en outre plus élevé que les taux d'étudiants ayant une santé mentale dite languissante, soit un faible niveau de bien-être émotionnel, psychologique et social, et un sentiment de vide et de stagnation, poursuit-il. Celui-ci se situe à environ 11 %. Entre ces deux catégories se trouvent plus de 6 étudiants sur 10 dont l'état de santé mentale est jugé modéré, soulève M. Gallet. Dans ce groupe, certaines personnes sont à risque de dépression ou d'anxiété, relève-t-il. C'est pourquoi il est important de faire un travail de prévention auprès de ces étudiants, afin d'améliorer leur bien-être. Un portrait pour chaque établissement. L'équipe de Benjamin Gallet prépare d'ailleurs un portrait de la santé mentale des étudiants pour chaque établissement qui a participé à l'enquête. Les cégeps et les universités vont donc avoir leurs propres données qui vont leur permettre de vraiment comprendre le lien entre les actions qu'ils ont posées pour améliorer le bien-être des étudiants et les indices de santé mentale, explique le co-directeur de l'Observatoire. La santé mentale dépend toutefois d'une multitude de facteurs, à la fois familiaux, individuels et relationnels, prévient M. Gallet. Même si un établissement met en place différentes initiatives pour augmenter le niveau de bien-être de ses étudiants et que l'on voit qu'une grande partie des gens y ont développé une bonne santé mentale, il y aura quand même des personnes qui n'iront pas bien. Une deuxième enquête sur la santé mentale des étudiants au Cégep et à l'université est prévue à l'automne 2026. C'était « Près d'un étudiant du Québec sur deux risque de souffrir d'un épisode dépressif », un texte de Florence Morin-Martel paru le 30 avril 2025 dans Le Devoir.
La criminalité dans le métro de Toronto incite des usagers à prendre leur auto. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 6 mai 2025 dans Le Devoir. Quand la criminalité investit le métro, les usagers sont-ils tentés d'opter pour la voiture? Oui, soutient Émile Gendreau-Côté, qui a analysé les données d'achalandage des transports collectifs et celle des déplacements automobiles à la suite d'événements violents survenus dans le métro de Toronto. L'étudiant à la maîtrise en sciences économiques de l'Université de Montréal donnera un aperçu des travaux qu'il a réalisés pour mesurer l'effet de la criminalité sur le choix modal des usagers lors d'une présentation mardi dans le cadre du 92e congrès de l'ACFAS. La violence dans le métro a pris de l'ampleur à Toronto dans les dernières années. Depuis 10 ans, il y a eu une augmentation assez constante à Toronto dans le métro. Juste pour les crimes contre la personne, il y a eu une augmentation de 240% depuis 2014, explique Émile Gendreau-Côté. Cascade de crimes. Bousculade, attaques au couteau et agressions sexuelles ont ébranlé la confiance des usagers. En décembre 2022, une femme de 31 ans a été poignardée par un homme qu'elle ne connaissait pas dans la station High Park. Puis, au cours d'une seule semaine de janvier 2023, une femme a été poignardée à de multiples reprises à bord d'un tramway et le lendemain, un adolescent de 16 ans a été poignardé au torse dans un autobus. Par la suite, en mars 2023, un adolescent a été poignardé à mort par un inconnu sur le quai d'une station de métro, relate Émile Gendreau-Côté, qui a tenu compte de ces événements dans son analyse. En examinant les événements violents survenus entre 2019 et 2023 dans le métro de Toronto, l'étudiant a constaté que, dans les 2 semaines suivant la médiatisation d'un crime, l'achalandage dans le métro diminuait de façon importante. Quant à la circulation automobile, elle augmentait dans les 3 semaines suivantes, selon les comptages effectués aux intersections. En revanche, l'effet sur les courses Uber était plutôt limité, a-t-il observé. S'il n'a pas analysé les déplacements à vélo, c'est que les données étaient difficilement accessibles dans la ville reine, souligne-t-il. 240%. Depuis 10 ans, il y a eu une augmentation assez constante de la violence à Toronto dans le métro. Juste pour les crimes contre la personne, il y a eu une augmentation de 240% depuis 2014. L'étudiant n'avance pas de chiffres précis, indiquant qu'il s'agit de résultats préliminaires qui seront bonifiés et précisés. Son étude sera d'ailleurs au cœur de son mémoire de maîtrise qu'il déposera cet été. En janvier 2023, la ville de Toronto a mis en place plusieurs mesures pour tenter d'endiguer la violence dans le métro, dont l'ajout de dizaines de constables spéciaux et l'embauche d'agents de service à la clientèle, ainsi que l'implantation d'un système de messagerie texte pour permettre aux usagers de signaler des événements violents en temps réel. Un sondage paru en février 2023 avait indiqué que 41% des usagers torontois considéraient le réseau de la Toronto Transit Commission, TTC, comme plutôt dangereux ou très dangereux. Parmi les usagers ayant réduit leur utilisation des transports en commun, près d'une personne sur deux a évoqué des préoccupations de sécurité pour expliquer sa décision d'éviter les transports collectifs. Le service de police de la ville de Toronto a observé une légère baisse du taux de criminalité entre 2023 et 2024. Émile Gendre, aux côtés, n'a pas été en mesure d'étendre ses analyses à cette période, puisque ses recherches se sont arrêtées à 2023. Une étude complémentaire sera nécessaire. Insécurité aussi à Montréal. Si Émile Gendreau-Côté s'est intéressé au métro de Toronto plutôt qu'à celui de Montréal, c'est parce que davantage de données étaient disponibles, notamment en ce qui a trait à Uber. La violence dans le métro de Montréal est peut-être moins intense qu'à Toronto, mais Émile Gendreau-Côté croit qu'il est plausible de penser que des observations similaires pourraient y être faites. En 2024, Richard Martineau a écrit que sa fille avait été agressée dans le métro à la station Lionel-Groulx. C'est sûr que quand un chroniqueur avec un grand lectorat comme ça partage ce genre de nouvelles, ça doit avoir un effet non négligeable. Il y a au moins un certain nombre de personnes qui ont dû se dire « J'éviterai le métro si possible parce que je vois que c'est dangereux ». Rappelons que, dans la métropole québécoise, la Société de transport de Montréal a décidé, en mars 2025, d'être moins conciliante avec les itinérants et les flâneurs dans le métro en raison de la hausse du sentiment d'insécurité des usagers. L'obligation de circuler était temporaire et a d'ailleurs pris fin le 30 avril 2025. C'était « La criminalité dans le métro de Toronto incite des usagers à prendre leur auto », un texte de Jeanne Corriveau, paru le 6 mai 2025 dans Le Devoir.
Donald Trump, entre diplomatie et conflit d'intérêts au Moyen-Orient, un texte de Fabien Deglise, paru le 14 mai 2025 dans Le Devoir. Le chiffre est dans les hauteurs où Donald Trump aime bien se faire voir. 600 milliards de dollars, soit la somme promise en investissement aux États-Unis par l'Arabie saoudite, d'où, cette semaine, le président américain a donné le coup d'envoi de son voyage officiel de 4 jours dans cette région du globe. Une visite de haut niveau, opportune non seulement pour le bien des États-Unis, tout comme de ses relations commerciales et diplomatiques avec le royaume de Riyad, mais aussi pour les affaires personnelles du président et de sa famille, dont l'avenir financier passe inextricablement par les monarchies pétrolières du Moyen-Orient. Et cette collusion, qui ne prend même plus la peine de se faire discrète lors du second mandat du populiste, ouvre sans doute un chapitre sans précédent dans l'histoire des présidences américaines mises ainsi au service de l'intérêt personnel de l'occupant du bureau ovale et de son entourage. Le Moyen-Orient est actuellement au cœur des activités commerciales mondiales de la Trump Organization, résumait il y a quelques jours Eric Lipton, journaliste d'enquête au New York Times, dans un balado du média indépendant Democracy Now. C'est de loin leur plus important centre de profit. Cela est lié à l'énorme richesse qui s'y trouve. Les revenus pétroliers et gaziers accumulés pendant des décennies ont alimenté des fonds souverains qui désormais cherchent à étendre leur influence à l'international pour devenir des acteurs économiques plus importants, et ce, en passant par les États-Unis et la famille de Donald Trump. Les apparences de conflits d'intérêts sont nombreuses pour le président américain. Elles ont aussi été alimentées dernièrement avec toute l'envergure d'un Boeing 747-8, gros porteur âgé de 13 ans, d'une valeur de 400 millions de dollars. Le Qatar se prépare à l'offrir en cadeau aux populistes pour remplacer son vieillissant Air Force One. Trump en héritera ensuite, après son départ de la Maison-Blanche, par le biais de sa bibliothèque présidentielle. Le Qatar est ce petit État du Golfe Persique que Donald Trump vilipendait pourtant en 2017 depuis la pelouse de la Maison-Blanche, en l'accusant d'être le financier du terrorisme à très haut niveau. Mais c'était avant que l'Émirat ne devienne un partenaire commercial important de sa famille, qui y a récemment signé un accord pour la construction d'un complexe de golf de luxe avec les promoteurs Dar Global et Qatari Dyer. Le projet comprend un terrain de 18 trous et des résidences frappées de la marque Trump, le tout placé au cœur d'un développement plus vaste orchestré par le gouvernement qatari, ont annoncé le mois dernier les fils du président, Eric et Donald Jr., qui dirige la Trump Organization. La valeur du développement est évaluée à 5,5 milliards de dollars. Le Qatar est également un partenaire financier de la société d'intelligence artificielle XAI, du multimilliardaire Elon Musk, ce proche conseiller de Donald Trump, et un contributeur au groupe de capital investissement de Jared Kushner, gendre du président. Du béton et des stablecoins. La visite officielle du président américain au Moyen-Orient a été précédée dans les dernières semaines par celle, moins spectaculaire mais tout aussi importante, de plusieurs membres de sa famille. Ainsi, en avril 2025, Eric Trump a débarqué à Dubaï pour y relancer le projet de construction d'une Trump Tower de 80 étages dans la plus grande ville des Émirats arabes unis. La première pelletée de sable devrait être donnée à l'automne 2025. Il y a 20 ans, Donald Trump avait déjà caressé l'idée d'ériger un hôtel à son nom sur la célèbre île en forme de palmier de cette ville, sans toutefois réussir à lui faire dépasser le stade de la table à dessin. Mais les vents du désert soufflant sur la péninsule arabique semblent lui être désormais plus profitables, comme en témoigne le milliard de dollars investi dans la Trump International Hotel and Tower de Dubaï par une société immobilière saoudienne proche du gouvernement. Cette même compagnie envisage la construction d'autres hôtels, terrains de golf et tours de luxe Trump en Arabie saoudite et à Oman, qui devraient rapporter des millions de dollars annuellement à la famille du président pour la simple utilisation de son nom. Et ce n'est pas tout. Depuis le début de l'année 2025, le gouvernement d'Abu Dhabi a injecté 2 milliards de dollars dans la World Liberty Financial, la nouvelle compagnie de crypto-monnaie de la famille Trump, qui cherche à s'imposer comme la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaie au monde. Le projet est ambitieux et repose en partie sur un système de crypto-monnaie stable, stablecoins, permettant de faire des dépôts ou des emprunts avec des crypto-monnaies conservant leur valeur dollar pour dollar. Fondée en octobre 2024 par la famille Trump, avec la complicité de Zach Witkoff, fils de Steve Witkoff, l'ambassadeur multicarte du populiste au Moyen-Orient, et plus loin encore, cette compagnie a connu un destin exceptionnel. Elle est devenue à une vitesse aussi fulgurante que l'imposition du régime de Donald Trump sur les États-Unis depuis le 20 janvier dernier, le plus important dépôt de stablecoins au monde, sur lequel l'entourage du président devrait faire des millions de dollars annuellement en intérêts et en commissions, y compris sur les 2 milliards déposés par Dubaï. Le poids des apparences. Le chevauchement important des intérêts commerciaux de la famille Trump sur la trame politique, économique et sociale du Moyen-Orient fait donc de cette région une destination privilégiée pour l'aspirant autocrate américain, même si la Maison-Blanche s'irrite depuis plusieurs jours devant les soupçons de collusion et d'apparence de corruption formulés par plusieurs médias avant que Donald Trump ne saute dans son vieil Air Force One pour s'y rendre. Sa porte-parole, Caroline Leavitt, a d'ailleurs qualifié de « ridicule » le fait de suggérer que le président Trump utilise sa fonction à son propre avantage. « Le président respecte toutes les lois sur les conflits d'intérêts », a-t-elle laissé tomber. « Pas vraiment », estiment d'ailleurs plusieurs fidèles du Républicain, dont sa plus fervente meneuse de claque, l'influenceuse Laura Loomer, militante d'extrême droite du mouvement MAGA, qui a averti qu'un Boeing du Qatar en cadeau serait une tâche sur l'administration Trump. Rien de moins. S'il accepte la transaction sans la soumettre aux élus de Washington, Donald Trump viendrait alors contourner la clause dite des émoluments étrangers, une disposition de la Constitution américaine conçue pour limiter la corruption au sommet de l'État. Elle interdit généralement aux titulaires de fonctions publiques d'accepter cadeaux, émoluments ou titres d'État étrangers sans l'approbation du Congrès. Le commentateur politique de droite Ben Shapiro a pour sa part remis en question le projet de lutte contre la corruption à Washington, pourtant vendu par Donald Trump à ses fidèles depuis près de 10 ans. Accepter des tas de cadeaux de la part de ceux qui soutiennent le Hamas, les frères musulmans, Al Jazeera et tous les autres, ce n'est pas ça, mettre l'Amérique en premier, a-t-il dit dans l'un de ses balados. Si vous voulez que le président Trump réussisse sa lutte contre la corruption, ce genre de choses sordides doit être stoppé. C'était Donald Trump entre diplomatie et conflit d'intérêts au Moyen-Orient, un texte de Fabien Deglise paru le 14 mai 2025 dans Le Devoir.
Parité symphonique, les notes du changement. Un texte d'Elisabeth Massicoli, paru le 13 juin 2025 dans la Gazette des Femmes. Longtemps perçus comme des bastions de tradition, une affaire d'hommes blancs et riches, les orchestres symphoniques québécois ont entamé il y a quelques décennies un virage vers plus de parité et de diversité, un mouvement qui prend aujourd'hui du galon. La diversité, l'inclusion et l'accessibilité sont devenues des priorités pour les orchestres canadiens, dit Catherine Carleton, directrice générale d'Orchestre Canada, une association nationale qui regroupe et soutient les orchestres professionnels du pays. Elle déplore toutefois le manque de statistiques à jour sur la question. Déjà au cours des années 1970, l'instauration d'auditions à l'aveugle dans le processus de sélection des musiciens et musiciennes a permis à davantage de femmes d'accéder à la scène. Aujourd'hui, à l'Orchestre symphonique de Québec, OSQ, la parité est presque atteinte. À Montréal, l'Orchestre symphonique, OSM, affiche un ratio d'environ 40% de femmes, mais parmi les 17 sections, seules 2 femmes occupent un poste solo, note Mélanie Lacouture, directrice générale de l'organisation. Si les auditions à l'aveugle permettent de réduire certains biais, elles ne permettent toutefois pas d'encourager activement la parité ou la diversité, précise-t-elle. Catherine Carleton rappelle aussi que certaines sections restent très masculines, notamment les cuivres et les percussions. Il y a un historique de stéréotypes sur ce que les femmes peuvent ou devraient jouer comme instrument de musique, malheureusement, note-t-elle. Selon Catherine Carleton, le problème, ce n'est pas seulement l'audition, c'est la culture dans laquelle entrent les musiciennes et les musiciens choisis. À son avis, on doit cesser de voir l'intégration comme une simple adaptation à l'ancien moule. Il faut repenser nos façons de faire pour accueillir l'apport distinctif des nouveaux profils. Et même lorsque les femmes, les personnes non-binaires ou les personnes issues de la diversité accèdent à l'orchestre, le milieu dans lequel elles doivent évoluer peut être difficile. Même après une audition juste, l'environnement peut rester excluant. Beaucoup d'orchestres restent ancrés dans des normes traditionnelles dominées par les hommes. Le défi, c'est de créer un climat de travail où tout le monde se sent bien, affirme-t-elle. En crescendo, Catherine Carleton et Mélanie Lacouture s'entendent sur une chose. Pour diversifier véritablement les scènes québécoises, il faut d'abord et avant tout élargir le bassin de talents. Au Québec, Des programmes comme « La musique aux enfants » dans Montréal-Nord initient les jeunes venant de communautés plus défavorisées à la musique orchestrale. Ce genre d'initiative est efficace, mais le changement structurel prend du temps, souligne Catherine Carleton. Ce qu'il faut pour arriver à plus de parité et de diversité au sein des orchestres, c'est une éducation musicale publique accessible, pour que l'accès au domaine ne soit pas réservé qu'aux enfants plus privilégiés. Apprendre la musique classique, ça coûte cher, ce qui exclut souvent les jeunes issus de certaines communautés, dit Alison Mijon, cofondatrice de l'ensemble Obiora. Premier ensemble de musique classique canadien composé essentiellement de musiciens et musiciennes professionnels dits « issus de la diversité culturelle », Obiora valorise les œuvres de compositrices et de compositeurs de différentes origines. La cofondatrice de l'ensemble québécois rappelle qu'il est également primordial pour les enfants de découvrir des gens qui leur ressemblent sur scène. Il leur faut des modèles. Voir des musiciennes et des musiciens racisés professionnels change la perspective des enfants et des parents. Faute de modèles, plusieurs jeunes abandonnent l'idée d'une carrière dans ce domaine qui leur semble peu accueillant ou accessible. Une question de représentation. En plus de repenser la composition des orchestres, il faut aussi revoir ce qu'ils jouent. Encore aujourd'hui, les œuvres de femmes ou d'artistes racisés restent très marginales dans les grandes programmations. Chez Obiora, on tente de faire découvrir des compositrices et des compositeurs dont la musique est peu connue ou considérée, dit Alison Mijon. Et c'est un pari qui semble fonctionner. On voit des mélomanes qui ont toujours assisté à des concerts traditionnels nous dire qu'ils ont découvert chez nous des œuvres bouleversantes qu'ils n'auraient jamais entendues ailleurs, raconte-t-elle. Mais offrir une programmation plus moderne et diversifiée semble plus difficile pour les grandes institutions qui sont ancrées dans la tradition. À l'OSM, entre autres, on remarque toutefois quelques efforts. On met de l'avant des programmes de musique autochtone, des œuvres de compositrices contemporaines et des invités d'ailleurs, comme la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, par exemple. C'est une façon d'élargir notre mission artistique et sociale, explique Mélanie Lacouture. Il reste du travail à faire pour que les scènes orchestrales reflètent la pluralité du Québec. Mais, entre les politiques de recrutement, les initiatives d'éducation musicale et la valorisation de nouveaux sons et de nouvelles voix, les premières notes d'un changement en profondeur se font entendre. C'était « Parité symphonique, les notes du changement », un texte d'Elisabeth Massicolli paru le 13 juin 2025 dans la Gazette des femmes.